protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Sunwa Assurance qui vous propose Priorité Santé. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Diarangay.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Priorité Santé s'intéresse à un véritable super-héros multitâche, à savoir notre foie. Le foie est très discret, mais rend un nombre infini de services à notre organisme. Un véritable ami altruiste qui nous veut du bien. Un super-héros qui détient des super-pouvoirs, comme celui de se régénérer. Dans la médecine chinoise, le foie est d'ailleurs appelé le général des armées. Le foie, le plus volumineux de nos organes, est aussi le plus négligé. Dommage, c'est avant tout grâce à lui que nous pouvons vivre plus longtemps et surtout en bonne santé. Il suffit, vous allez le voir, de savoir l'aider. Connaissez-vous bien votre foie, quatrième organe le plus touché par le cancer? Il est essentiel de savoir le protéger. Mais avec notre mode de vie et nos excès en tout genre, comment faire en sorte d'en prendre soin? Pour y répondre, je suis avec le professeur Christophe Ezod, hépatologue au CHU Henri Mondeur à Créteil, en région parisienne. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous allez nous livrer quelques conseils simples pour rendre la vie douce à ce foie qui nous veut tant de bien. Et nous retrouverons professeur Roger Sombier, gastro-entérologue et hépatologue à l'hôpital Yelgado Ouédraogo à Ouagadougou au Burkina Faso. En fin d'émission, nous faisons le point sur la pénurie de médicaments pour les malades de Parkinson. Nous en parlerons avec Didier Robillard, président de France Parkinson. Et n'hésitez pas à nous appeler le numéro de Priorité Santé 33 1 84 22 75 75.
Priorité Santé sur RFI.
Professeur Christophe Ezod, alors si j'ai bien compris, comprendre comment fonctionne son foie, c'est prendre conscience de son rôle capital pour gagner des vies en bonne santé. Alors le foie, il est important. Dites-nous d'abord à quoi il sert.
Alors, c'est le foie, il a énormément de fonctions. Il y en a plus de 300. Je ne vais pas toutes les énumérer. En gros, il a une grande fonction, c'est de détoxifier. Hein, c'est-à-dire qu'il va éliminer les toxiques. Et après la digestion, par exemple, on a plein de substances qui sont toxiques, qui sont neurotoxiques, toxiques pour le cerveau, comme l'ammoniac. Eh bien, il va transformer l'ammoniac en urée. Il va fabriquer également tous les facteurs de la coagulation du sang. Lorsque le foie ne marche plus, eh bien le sang devient trop fluide. Il va stocker, il va fabriquer le glucose, le sucre. Par exemple, il peut également stocker des vitamines, il va synthétiser le cholestérol. Voilà, il a énormément de fonctions. Et aujourd'hui, quand le foie ne marche plus, eh bien on n'a pas de solution. Le rein, par exemple, on a la dialyse. Il n'y a pas de dialyse du foie. Si le foie ne fonctionne plus du tout, eh bien, il n'y a plus que la transplantation du foie.
Et on verra d'ailleurs tout à l'heure qu'il y a la possibilité de faire des greffes du foie.
Absolument.
On en parlera. Mais du coup, comment décrire ce foie? Peut-être commencer par le situer, tout simplement, dans notre corps.
Alors, le foie, il est à droite, là, juste en dessous des côtes. C'est à peu près 2% du foie. Alors, on dit qu'il pèse à peu près 1,5 kg. Donc, c'est en effet le plus gros organe. Alors, il a deux lobes. Il y a un lobe droit et puis il y a un lobe gauche. Il y a huit segments. Et voilà. Donc, c'est vraiment un organe qui est silencieux. C'est-à-dire que, En règle générale, il ne fait pas mal. Le foie n'engendre pas de douleur. La vésicule biliaire, lorsqu'il y a des calculs, ça peut faire mal, mais le foie, il ne fait pas mal. Donc le problème, c'est que les maladies du foie sont très souvent silencieuses.
Son endroit est finalement stratégique, puisque vous parlez d'un endroit situé près de l'abdomen. Comment il fonctionne, ce foie ?
Alors, le foie, en fait, il va, dans ses nombreuses fonctions, il va être vascularisé par deux vaisseaux, en particulier par une veine qui s'appelle la veine porte, qui va recevoir tout le sang qui vient du système digestif. C'est un sang qui est très sale Et le foie va être là pour, par exemple, le purifier et renvoyer au niveau du cœur un sang qui est parfaitement propre.
Propre. Alors, il y a une différence entre celui de l'homme et de la femme. Quel est-il ?
Alors, le foie de l'homme, il est un peu plus volumineux que le foie de la femme.
Et est-ce que les femmes ont plus de risques ou de probabilités d'avoir
Oui, il est un peu plus fragile. Il y a une certaine inégalité. Par exemple, pour la consommation d'alcool, pendant très longtemps, il a été dit que c'était 20 grammes d'alcool pour la femme qui était le seuil pour favoriser les maladies du foie, et c'était 30 grammes pour l'homme. Maintenant, on est revenu à une définition qui est valable pour les deux sexes, et maintenant on dit 10 verres par semaine, c'est-à-dire 100 grammes d'alcool par semaine. Un verre d'alcool, c'est 10 grammes d'alcool.
Donc, de toute façon, il faut en prendre soin chez les hommes et chez les femmes.
Les deux.
Et du coup, vous êtes hépatologue, on l'a dit, un spécialiste donc du foie. Quels sont les motifs principaux de vos consultations ?
Alors, aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui viennent en consultation pour les hépatites virales chroniques, en particulier les hépatites virales C et les hépatites virales B. Mais il y a également toutes les conséquences de la consommation excessive d'alcool sur le foie, Et puis, ce que l'on voit émerger, c'est le problème du foie gras qui devient un problème de santé de plus en plus émergent dans les populations occidentales.
Justement, on pourrait parler de ce foie gras. On entend beaucoup parler qu'il est en évolution dans la société occidentale. Qu'est-ce que c'est ce foie gras ?
Alors, en fait, c'est une pathologie qui est émergente. Et il y a vraiment deux pathologies différentes. Il y a le foie gras seul, ça c'est à peu près 20% de la population en France. 20% de la population en France a un foie avec de la graisse à l'intérieur. Alors, dans ces 20%, heureusement, dans 80% des cas, le foie va être gras, mais il n'y aura pas de conséquences directes pour la santé. En revanche, dans 20% des cas, le foie va être gras, mais il va y avoir en plus de l'inflammation dans le foie, une sorte d'hépatite graisseuse. Et quand on a de l'inflammation dans le foie, quand on a une hépatite graisseuse, on peut évoluer vers la cirrhose. Et quand on a une cirrhose, on peut évoluer vers le cancer du foie. Donc vous voyez que c'est une minorité des patients qui ont le foie gras qui vont évoluer vers la cirrhose ou le cancer, heureusement. Mais tout le problème est d'identifier les patients à risque d'évoluer vers une cirrhose ou vers un cancer du foie au bout de nombreuses années.
Mais ce foie gras dont on parle, non pas la nourriture, on y pense automatiquement, mais c'est surtout dû en fait à la malbouffe.
Exactement, c'est-à-dire que c'est complètement lié à l'alimentation. Les deux grands facteurs, c'est le surpoids, l'obésité et le diabète. Et bien sûr, surpoids, obésité, diabète sont dus à une mauvaise hygiène alimentaire de vie, une mauvaise hygiène de vie. C'est-à-dire que il faut rappeler les choses très simples, manger 5 fruits et légumes par jour, ne pas manger trop sucré, trop gras, trop salé, et puis bien sûr faire du sport, les 30 minutes de marche rapide
manger,
par
bouger,
jour. Mangerbouger.fr.
Du coup, vous parliez tout à l'heure justement des douleurs du foie qui sont finalement pas très peu perceptible, le foie est tellement discret que quand il ne va pas bien, on ne le sait pas. Alors, on parle actuellement de la maladie de la malbouffe et de ce foie gras. Comment détecter quand le foie va mal ?
Voilà. Alors, le souci, en gros, c'est que c'est essentiellement par une prise de sang. Alors, il y a des marqueurs dans le sang. Ce sont des prises de sang totalement simples que n'importe quel médecin généraliste ou autre médecin peut demander. Et on a des marqueurs comme les transaminases, ASAT, ALAT. Ça, c'est un marqueur de décès, de mort des cellules du foie. Et puis, il y a également que la gamma-GT. La gamma-GT, quand elle est élevée, ça veut dire en gros qu'il peut y avoir de la graisse dans le foie. Donc, à partir de prises de sang très simple, on peut réussir à savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le foie.
Mais à quelle fréquence on contrôle le foie ?
Alors, moi je dirais, vous savez, quand on fait un check-up, une fois par an, une fois tous les deux ans, on regarde un peu ce qui se passe.
Et souvent quand un patient souffre du foie, on dit qu'il est jaune. Bon, ça, c'est pour les personnes à peau très claire, mais du coup, pour les patients noirs aussi, le teint est altéré?
Alors, il faut regarder le blanc des yeux, et le blanc des yeux devient jaune. Alors, quand on devient jaune, soit la peau, soit le blanc des yeux, c'est malheureusement souvent trop tard. C'est-à-dire que lorsqu'on a une maladie chronique du foie et qu'on devient jaune, ça veut dire que là, les carottes sont un peu cuites. C'est qu'on arrive un peu trop tard.
Alors, professeur, on va tout de suite prendre en ligne les nombreux auditeurs qui veulent vous poser des questions. Mamadou est en ligne avec nous en direct de Kaolack au Sénégal. Mamadou, bonjour.
Bonjour Diarra.
Bonjour.
Bonjour professeur.
Mamadou, on vous écoute.
Oui, j'aimerais poser deux voire trois questions au professeur.
Oui.
Ma première question sera relative à l'alimentation. Compte tenu de la richesse en protéines de la viande rouge, je voudrais savoir quel devrait être le ratio pour une bonne hygiène du foie.
Alors, les protéines, c'est pas un problème majeur pour le foie. Ça peut être un problème, mais uniquement lorsque le foie ne marche plus du tout. Donc, quelqu'un qui a un foie en bonne santé, il peut manger des protéines sans problème. Après, on revient toujours sur le problème de la graisse. Et en particulier, vous savez que vous avez des viandes qui sont plus ou moins grasses. Et donc, ce que l'on dit pour une bonne hygiène de vie, c'est que en gros, viande et charcuterie, c'est 2 à 3 fois par semaine, pas plus. Voilà. Mais c'est un conseil général pour, je dirais, la santé, et qui inclut bien sûr le foie. En fait, ce qu'il faut, c'est toujours lutter contre trop de graisse, trop de sucre, donc trop de viande grasse. Voilà. Et il faut éviter le diabète, il faut éviter le surpoids et l'obésité. Voilà. Donc, 2 à 3 fois par semaine, ça me paraît totalement raisonnable pour une bonne hygiène de vie alimentaire.
Mamadou, vous aviez d'autres questions?
Oui, la deuxième question, elle est relative au sport, à l'activité sportive. Donc, quel est l'impact d'une activité sportive journalière sur le foie de manière générale? Mais aussi, chez les sujets souffrant d'une pathologie du foie, à leur insu.
Alors, non, le sport, c'est excellent pour la santé. Et c'est toujours, on revient toujours à la même chose. Si vous faites du sport, vous luttez contre l'obésité, le diabète, etc. Donc ça ne peut être que bon pour le foie. Et même si on a eu une maladie du foie, ça ne pose pas de problème. En revanche, nous, on a des alertes des agences de santé pour le sport chez les gens qui prennent des compléments alimentaires pour la musculation ou qui prennent des brûleurs de graisse. On sait que parmi ces substances, il y a des substances qui peuvent être toxiques pour le foie et qui peuvent donner des hépatites. C'est-à-dire qu'on peut faire du sport, au contraire, ça c'est très bon pour la santé, mais tous les compléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire ou les brûleurs de graisse, attention, ça peut être dangereux pour le foie. Donc ne pas acheter ce type de choses, ne pas consommer ce type de choses.
Mamadou, vous aviez d'autres questions?
Oui, j'ai une dernière question.
Allez-y.
Elle est d'ordre préventif.
Oui.
Bon, j'aimerais savoir, à quel moment devrait-on s'alarmer et aller consulter un médecin? Bon, je pose cette question parce que les rares personnes que j'ai connues et qui ont souffert d'une pathologie du foie l'ont su tardivement. Et malheureusement, pour la plupart, c'était trop tard.
C'est une question très intéressante, professeur. Effectivement, quand doit-on s'alarmer?
Absolument, c'est la question centrale parce que les maladies du foie sont silencieuses. Dans la majorité des cas, il n'y a pas de symptômes, donc il faut les prévenir. Il faut faire des prises de sang et en particulier en Afrique où les hépatites chroniques virales sont très très fréquentes, comme l'hépatite chronique B, comme l'hépatite chronique C, eh bien, faut faire des tests de dépistage. Parce que, en effet, si on ne les dépiste pas, elles font leur sale boulot, on arrive à la cirrhose, on arrive au cancer, et au moment où on les détecte, c'est trop tard, le mal est fait. Donc il faut se faire, par exemple, dépister pour les hépatites chroniques B et C. Il faut limiter sa consommation d'alcool et avoir une bonne hygiène de vie alimentaire, ne pas manger trop de sucre et pas trop de graisse.
On va le répéter tout au long de l'émission. Voilà. Merci beaucoup Mamadou pour votre appel. On a Omar qui nous a posé une question en Mauritanie. Bon, c'est un petit peu en lien avec ce que vient de nous demander Mamadou puisqu'il parlait d'alimentation. Et lui nous demande quels sont les aliments bons pour notre foie et lesquels devons-nous éviter.
Oui, alors en gros, dans ce... Parce que le plus important, c'est ceux que nous devons vraiment éviter. Hein. Mm-hmm. Donc, encore une fois, l'alcool, pas plus de 10 verres par semaine, ça c'est très 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 important. Et dans les aliments, ce sont les aliments qui sont trop sucrés, donc c'est tous les sucres rapides, hein, c'est-à-dire les sodas. Hein. Les sodas, les jus de fruits, c'est bien, mais il faut pas non plus. Voilà, l'eau, c'est très bien. Voilà, il faut bien dire que se désaltérer avec de l'eau, eh ben, c'est vraiment quelque chose qui est totalement utile. Moi, j'étais assez surpris ce week-end. J'étais avec des amis et j'ai vu la petite de 3 ans déjeuner avec du Coca-Cola. Alors, moi, c'est quelque chose qui m'a horrifié. J'ai dit, mais c'est voilà, on n'a pas besoin de prendre un petit déjeuner, voire de déjeuner avec du Coca-Cola. Donc les sodas vraiment à proscrire. Alors après vous avez des aliments qui sont réputés être bons. Par exemple le café, c'est bon.
Thé. J'ai vu que 2 ou 3 tasses par jour réduiraient les risques de cancer de 38%.
Absolument. Hein. Le café c'est bon, le thé c'est bon. Vous avez des tas d'aliments dits on va dire antioxydants, donc ce sont des protecteurs du foie. Vous avez l'avocat, vous avez le radis noir, vous avez le pamplemousse. Il y a toute une liste comme ça qui sont des aliments qui peuvent être en effet bons pour le foie.
Et toujours ni trop ni trop peu, puisque
toujours
justement
avec modération,
puisque parfois ça peut détériorer les organes. Je pense notamment
Absolument.
Au café. On a aussi des aliments qui protègent le foie, comme le curcuma. Est-ce que c'est vrai?
Oui, ça a été montré.
Et la consommation de riz, on en parle beaucoup puisqu'on a pas mal d'auditeurs qui se trouvent en Afrique et qui en consomment. Que faut-il leur conseiller concernant l'alimentation?
Le riz, c'est absolument parfait. Hein. C'est un très très bon aliment. Alors, aujourd'hui, on a une alerte sur le riz, mais en fait, c'est sur la levure de riz rouge. Parce que la levure de riz rouge contient une substance qui s'appelle une statine. Et il se trouve que les statines, c'est ce que l'on donne comme médicament pour faire baisser le cholestérol. Donc il y a des gens qui prennent de façon naturelle des levures de riz rouge pour faire baisser leur cholestérol. Mais ces statines, qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient de synthèse, elles peuvent parfois être toxiques pour le foie, donner des hépatites médicamenteuses. Donc il faut parfois contrôler son bilan hépatique pour être certain qu'il n'y ait pas de toxicité.
Alors la question de l'alimentation, vraiment, elle pose de nombreuses interrogations à nos auditeurs. On a Souleymane qui nous appelle du Burkina Faso. Souleymane, bonjour.
Bonjour Diarra.
Bonjour.
Bonjour Diarra.
Bonjour Souleymane. On vous écoute, on vous écoute.
Voilà, moi je suis étudiant à Koudougou. Mm-hmm. Bon, je mange au restaurant universitaire. Bon, quand on part prendre la nourriture, bon, on a l'impression que vraiment il y a un excès de cube magie. Donc, je voulais savoir si le cube magie n'a pas des effets néfastes sur le cœur, sur le foie, quoi.
Ah, très bonne question, professeur.
Oui, non, il n'y a pas d'alerte sur les cubes magie. Non, ça ne pose pas de problème.
On a souvent cette question autour de justement cette utilisation excessive. Ce sont des bouillons qui sont parfois très salés.
Oui, alors. Le sel, c'est pas un problème pour le foie, sauf quand on a une maladie sévère du foie. Par exemple, lorsqu'on a une cirrhose du foie, faut pas manger trop salé parce que quand on a une cirrhose, on retient l'eau et le sel. Mais quand on a un foie qui marche normalement, le sel n'est pas un problème majeur. Mais le sel peut être un problème pour, par exemple, l'hypertension artérielle. Voilà. Mais pour le foie, ça va.
Ça va. De toute façon, on retient pas trop de sucre, pas trop de sel et on bouge.
Exactement.
Vous avez entendu, Souleymane. Merci en tout cas pour votre appel.
Oui, oui.
On va continuer de parler d'alimentation parce que c'est quand même important. Bon, le grignotage, on sait que c'est pas bon, surtout pour le foie. Qu'est-ce qu'on conseille aux auditeurs friands comme moi de sucrerie?
Alors, non, je pense qu'il y a, déjà une première étape. C'est quand on est enfant, il faut dès le début éviter de manger trop de sucre.
Donc on sensibilise tôt.
Absolument. Vous savez qu'à l'heure actuelle, on estime par exemple en France qu'il y a à peu près 10% des enfants qui ont un syndrome métabolique, c'est-à-dire qui ont un foie gras. Donc c'est absolument énorme. Avant, on pensait que c'était plutôt quoi les adultes, mais maintenant on voit ça chez l'enfant. Donc dès le début, il faut prévenir, il faut éduquer, sensibiliser. Trop de sucre. J'ai entendu récemment qu'il avait été demandé de réduire la quantité de sel, par exemple, dans les aliments qui sont fabriqués par les industriels. Eh bien, c'est pareil pour le sucre. Et quand vous utilisez les nouvelles applications là que vous faites vos courses, à chaque fois, on vous dit c'est trop sucré, voilà. Donc il faut vraiment qu'il y ait un effort pour diminuer le sucre. Il ne faut pas s'habituer à manger trop sucré dans l'enfance.
Et en parlant de sucre, est-ce que vous recommandez l'utilisation d'édulcorants?
Oui, c'est bien, si vous voulez, en termes de calories. Parce que effectivement, quand vous prenez un Coca-Cola dans une canette, c'est 130 calories. Si vous prenez du zéro ou du light, ça va être une calorie. Donc c'est bien en termes de calories, mais en fait, c'est pas bien en termes d'appétence et d'addiction pour le sucre. Donc ça ne change pas.
Et les mentions sans sucre ajouté.
Oui, ça c'est plutôt bien. Oui.
Ça c'est plutôt
bien. Oui, c'est bien ça.
Entendu. On va partir tout de suite en direct de Ouagadougou au Burkina Faso.
Priorité santé sur RFI.
Et nous rejoignons le professeur Roger Sombier, gastro-entérologue et hépatologue à l'hôpital Yelgado Ouédraogo à Ouagadougou au Burkina Faso. Professeur, bonjour. Professeur, vous nous entendez?
Je vous entends très bien.
Bonjour.
Bonjour.
Professeur, dites-nous, quel est le premier motif d'hospitalisation dans votre service?
Le premier motif d'hospitalisation dans mon service, c'est clairement donc les maladies du foie. Mm-hmm. C'est-à-dire que ça représente 65 à 70% des motifs d'hospitalisation, mm-hmm. avec donc comme cause le cancer du foie et la cirrhose.
Mm-hmm. Quels sont justement les taux de prévalence du cancer du foie et de la cirrhose au Burkina Faso?
C'est clairement autour de 70 à 80% des motifs d'hospitalisation, si vous voulez. Mm-hmm. C'est la cause principale, c'est l'infection virale par le virus de l'hépatite B. Donc, si on prend les données de l'OMS, et tout l'OMS estime qu'on a plus de 3000 décès dus au cancer du foie dans mon pays. Mais c'est vraiment dans le service, c'est clairement donc la première cause avec donc 70 à 80%. L'OMS, selon l'OMS, la cirrhose, c'est 3100 décès, le cancer primitif du foie, 1400 décès par an. Mais c'est des données qui, d'un point de vue, sont sous-estimées parce que la plupart des malades vont décéder à domicile parce qu'une fois qu'on leur dit à l'hôpital que le diagnostic est tardif et que l'issue est fatale, les parents préfèrent entrer avec le malade à la maison.
Donc ils viennent vous consulter très tard, hein, professeur.
Allô? Pardon, j'ai pas bien compris.
Donc ils viennent vous consulter très tardivement?
Oui, ils viennent nous consulter très tardivement pour la simple raison que les maladies du foie sont silencieuses. L'infection virale est acquise dans l'enfance, ça va progresser silencieusement sur 10, 20, 30, 40 ans et le malade, quand il est symptomatique, il a déjà une tumeur qui a évolué, qui est trop grande, trop grosse et qui ne peut plus être traitée chirurgicalement, qui est le seul traitement visé curatif. Il vient tard, effectivement.
Mais oui, professeur, on parlait des hépatites. On a justement en auditeur en ligne Thierno qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Il y a des questions autour de cette hépatite. Thierno, bonjour.
Bonjour Gara.
Bonjour professeur.
Bonjour.
Thierno, vous avez des questions à poser autour de cette hépatite. On vous écoute.
Oui, j'ai 2 à 3 questions. J'ai été récemment diagnostiqué en Guinée de l'hépatite B. Du coup, je me suis rendu à Dakar pour faire des examens à l'hôpital principal. Mm-hmm. Selon les conclusions de ces examens, je suis porteur d'un virus fortement réplicatif. Donc, je voudrais savoir comment la maladie évolue. Ça, c'était la première question. Mm-hmm. Deuxièmement, je voudrais savoir quels sont les modes de traitement. Et ensuite, comment ils m'ont parlé beaucoup du régime alimentaire, quels conseils je peux avoir par rapport au régime alimentaire.
Très bien, Thierno. Professeur Roger Sombier, est-ce qu'on pourrait répondre justement aux questions de Thierno?
Oui, les trois questions de Thierno, je vais commencer par la dernière. Il n'y a pas de régime alimentaire particulier quand on est infecté par le virus de l'hépatite B. Mm-hmm. On mange ce qu'on a envie, comme tout le monde. Il faut simplement avoir un régime alimentaire sain, varié, en évitant tout ce qui est trop sucré, trop gras, trop salé. Mm. Alors, pour les deux autres questions, en termes, si vous voulez, de réplication virale qu'il a de façon importante, il faut simplement évaluer sa maladie pour savoir donc quel est le degré donc de sévérité de l'atteinte hépatique. Est-ce qu'il a une cirrhose, oui ou non? Et là, il y a des examens sanguins qui vont orienter de façon indirecte. Il fait une échographie du foie, et un examen très simple qui va donner une idée de la dureté du foie, son élasticité, qui s'appelle l'élastographie impulsionnelle. Donc je pense que ça doit être disponible à Dakar, peut-être pas dans tous les centres, mais c'est un examen très simple qui va permettre de savoir si sa maladie est très évoluée ou pas. Et on lui fait des transaminases pour voir s'il a une activité ou pas. Le médecin, s'il a ça, il pourra lui dire, il y a indication à vous traiter ou on vous surveille, on contrôle. Il n'y a pas d'urgence à traiter dans tous les cas. Sinon, nous avons des traitements efficaces qui peuvent contrôler le virus, mais c'est des traitements qui ont une durée indéterminée.
Thierno, vous avez entendu donc, premièrement, aller consulter un médecin et deuxièmement, manger, bouger, pas trop sucré, manger pas trop sucré, manger pas trop salé. Professeur Ezad, vous vouliez réagir autour de cette hépatite?
Oui, non, c'est-à-dire que je pense que les hépatites virales, comme l'a souligné mon collègue, c'est vraiment un enjeu majeur pour l'ensemble de la planète et en particulier pour l'Afrique. Et je voulais juste rappeler que l'OMS a un objectif majeur qui est l'élimination des hépatites virales B et C en 2030. Alors pour ça, ça demande bien sûr une implication des hommes politiques, des gouvernements, ça peut pas se faire tout seul. Et pour ça, en gros, il y a 3-4 choses extrêmement importantes. La première, c'est qu'il faut prévenir les nouvelles infections. Et donc c'est le problème de la vaccination à la naissance, en particulier en Afrique, et comme l'a souligné mon collègue, c'est une infection qui souvent arrive au moment de l'accouchement, et c'est probablement le cas de Thierno, donc ça c'est extrêmement important, la vaccination. Deuxièmement, c'est le dépistage, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir dépister, faire des tests, et ensuite c'est l'accès aux soins et l'accès au traitement, et comme on vient de le souligner, aujourd'hui il y a des traitements qui sont tout à fait accessibles. Voilà, donc c'est un point majeur pour les 10 ans qui viennent, pour l'Afrique, mais en fait pour l'ensemble de la planète.
Professeur Roger Sombier, on a un autre auditeur qui souhaiterait vous poser une question. Issouf, il est justement au Burkina Faso, tout comme vous. Issouf, on vous écoute, bonjour.
Oui, bonjour Diarra, bonjour professeur.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien. Issouf, on vous écoute, posez votre question.
Voilà, je voulais savoir comment faire pour éviter la cirrhose du foie, quoi.
On va laisser professeur Roger Sombier répondre.
Oui, d'accord. Ben, comment faire pour éviter la cirrhose? La première cause de cirrhose dans notre pays, c'est l'infection par le virus de l'hépatite B. Donc clairement, le professeur Ezor vient de le dire, nous avons un vaccin efficace depuis plus de 30 ans. Donc il faut bloquer toutes les nouvelles infections, dépister toutes les femmes enceintes qui ont le virus de l'hépatite B, vacciner les enfants le jour de la naissance. Nous avons des efforts à faire à ce niveau parce que dans notre pays, les enfants sont vaccinés à 8 semaines après la naissance. Et pour les adultes, les adolescents, il faut faire le dépistage afin de savoir donc si on est naïf, si on n'est pas infecté, on fait le vaccin. Il est efficace, il est simple, il est bien toléré et il assure une protection longue durée toute la vie. Maintenant, le dépistage, si on le fait avant qu'on est infecté, qu'on est porteur du virus, il faut consulter un médecin qui a l'habitude de prendre en charge les hépatites virales. Il va vous faire le bilan de la maladie et il vous dira ce qu'il faut faire et vous n'avez rien à craindre. La cirrhose muscle développement n'apparaît pas en 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est long, ça prend des années. Et là, il vous mettra un traitement qui vous protégera donc contre le risque de faire une cirrhose.
Ah, ok.
Merci pour votre appel, Issouf, et bonjour à tous nos auditeurs du Burkina. Alors, professeur Roger Sombier, juste avant de conclure, quelles recommandations donnez-vous à vos patients pour bien prendre soin de leur foie? Quel message vous souhaitez adresser aujourd'hui à nos auditeurs?
Ben, c'est très simple, le message que je leur recommande, c'est simplement donc de bouger, activité physique régulière, maintenue. Je leur dis de ne pas faire forcément les Jeux Olympiques. Faites vos plaisirs, allez-y à votre rythme, la marche rapide, le jardinage, la danse. Mangez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Je dis à mes patients, ayez un régime alimentaire plus proche de la vache que du lion. Parce que les gens mangent beaucoup plus de viande, donc c'est saturé donc en acides gras. Et donc je leur recommande aussi d'éviter tout ce qui est sucrerie, les sodas, les sucres contenus dans des aliments industriels et réduire l'alcool au besoin, ne pas en prendre, boire, avoir toujours de l'eau à sa portée dans la journée, bien s'hydrater, de l'eau plate de préférence.
Merci pour ces précisions, professeur Sombier. On a avec nous le professeur Ezad, que je sais que vous appréciez beaucoup. Vous souhaitez lui adresser un petit message?
Oui, avec plaisir. Mais bonjour, professeur Ezad.
Bonjour.
J'ai eu l'occasion voilà, de suivre toujours ces brillantes conférences donc, au niveau des conférences de la Société française des pathologies dont je suis membre. Et donc, c'est vraiment avec un grand plaisir que je participe à cette émission avec lui ce matin.
Eh bien, c'est un plaisir qui est partagé. Peut-être qu'on se retrouvera la semaine prochaine.
Oui, voilà, on se retrouvera la semaine prochaine.
En tout cas, merci infiniment, professeur Roger Sombier. Et puis, à très bientôt. Hein. Peut-être pas la semaine prochaine, mais bientôt, en tout cas, sur nos antennes.
RFI à Ouagadougou, 94 FM.
Le foie, nous l'avons compris, est un organe qui a une capacité étonnante. Il peut régénérer. Il est donc possible de donner de son vivant un morceau de son foie à un proche ou à un malade. Écoutons le témoignage d'Hélène, 46 ans, mère de famille installée en banlieue parisienne. Elle a bénéficié d'une greffe de foie il y a 3 ans et détaille le retour à la vie quotidienne au micro de Raphaël Constant.
En 2005, par une banale prise de sang, on a diagnostiqué un hémangiome géant sur le foie. L'hémangiome faisait déjà plus de 20 cm. Il englobait complètement le foie.
C'est comme un kyste, en fait.
C'est comme un kyste. La différence, c'est en fait, un hémangiome, c'est une poche de sang. Donc, c'est bénin, au sens médical du terme. Mais ça prend énormément de volume. Et donc, il englobait tout le foie, les deux lobes. C'était trop complexe, parce que ça entourait aussi les voies biliaires et les artères. Et c'était trop complexe pour l'enlever, trop dangereux. Et s'il avait l'enlevé, j'aurais pas eu suffisamment de foie restant, malgré le fait que le foie se régénère, pour qu'il puisse se régénérer suffisamment. Et donc, la première approche, ça a été de regarder son évolution, donc de ne rien faire. Et j'ai vécu avec jusqu'en 2015. 2014-2015, mon corps a commencé à se fatiguer. J'ai commencé à perdre pas mal de muscles. Et le foie, ainsi que les autres organes, ont commencé à fatiguer. Le corps peinait un peu. Et à ce moment-là, quasiment tous les spécialistes, tous m'ont proposé de faire une greffe qui était beaucoup moins dangereux, voire certains, de toute façon, ne voulaient toujours pas intervenir au niveau chirurgical sans penser à la greffe.
Et après cette opération, cette greffe du foie, quel a été le suivi et surtout les suites opératoires?
Pour ce qui me concerne, en tout et pour tout, je suis restée 2 semaines et demie, y compris la réa. Pour une greffe, c'est très court. On peut retrouver son autonomie et sa force assez rapidement. L'intérêt de la greffe du foie, c'est que le foie se stabilise très très vite. On voulait sortir si le bilan hépatique est stable. Les médicaments anti-rejet et l'ensemble du traitement sont très bien acceptés. Bon, il y a peu de rejets, à part bien sûr complications, mais globalement, c'est un organe qui se greffe très bien. Et les patients retrouvent, voilà, après cette partie convalescence à l'hôpital, un rythme de vie très rapide, proche de la normale. Alors après, à la maison, bien sûr, il faut garder en tête certaines précautions. Déjà, on reste quand même fragile physiquement, mécaniquement, mais il faut quand même marcher. Et puis, très bien s'alimenter. Que de produits frais. On a un petit régime alimentaire qui est pas non plus très strict. Pendant quelques mois, on doit éviter le sel à cause des corticoïdes. Et puis, faut éviter tout aliment cru animal. pour éviter toute infection, en fait, toute bactérie. Donc voilà, poisson cru, viande crue. Donc ça, c'est dans un premier temps. Puis il y a un aliment qu'on ne doit pas manger, et là, c'est à vie, c'est le pamplemousse, qui est assez courant avec certains traitements, puisqu'en fait, il diminue les effets du médicament. Donc c'est assez courant pour différentes pathologies. Donc pendant les tout premiers mois, il faut mieux se faire sa nourriture soi-même, acheter des produits frais et vraiment de se nourrir, d'écouter son corps, de prendre soin de son corps au maximum après cette greffe, de mettre tous les atouts de son côté pour qu'il y ait le plus de bénéfices possible.
Après cette greffe, quel a été le traitement ?
Alors, le traitement médicamenteux, il est plus ou moins lourd. Globalement, on a un certain nombre de médicaments anti-rejet pendant plusieurs mois, avec un traitement anti-rejet à vie, mais qui est plus restreint, plus définitif, qui, au fur et à mesure des mois, a tendance à baisser. En 6 mois, pour ce qui me concerne, je suis passée de 4-5 médicaments à un seul médicament, que je vais garder à vie. Lorsqu'on sort de l'hôpital, on a l'obligation d'aller une fois par semaine en hôpital de jour, donc pendant un mois ou deux, pour vérifier que tout aille bien. Et puis, très vite, on espace les visites et les bilans. Donc, les bilans sont en général un bilan sanguin, un scanner, une ou deux fois par an, et puis une échographie assez régulièrement, tous les trimestres, par exemple. Donc, ce sont des bilans assez légers, avec la rencontre avec les pathologues. Et puis, c'est là que le traitement, au fur et à mesure, peut diminuer. Voilà, donc moi, j'ai divisé mon traitement au bout de 3 ans, d'une fois et demie à peu près. C'est un organe qui, très très vite, je dirais même les quelques heures après la greffe, fait son travail, quoi. Il remplit son rôle assez rapidement, c'est très mécanique. Je dirais qu'au quotidien, on n'a pas l'impression d'avoir un organe qui n'est pas le sien. Pour ce qui me concerne, c'est comme si j'étais revenue avant que les mangiomes prennent de l'ampleur. Donc, je n'ai aucune pathologie autre. J'ai un fonctionnement du foie parfait. On retrouve une vie normale, un rythme normal et une vie sociale normale également. Donc ça, c'est extrêmement important. Et pour les gens qui avaient vraiment la maladie, une maladie bien présente auparavant, c'est réellement une nouvelle vie.
Professeur Ezad, une réaction par rapport au témoignage d'Hélène ?
Oui, non, je pense que c'est un témoignage qui est très très important et qui montre que la transplantation hépatique, eh bien, ça peut être une solution pour de nombreuses maladies du foie. Alors, en sachant évidemment qu'on ne peut pas greffer toutes les maladies du foie et que, bien sûr, les indications sont très précises et très bien codifiées.
Et les mangiomes géants dont parle Hélène est fréquent ?
Non, ça c'est une maladie extrêmement rare.
Elle a parlé quelque chose d'intéressant, l'alimentation, au niveau de l'alimentation. Hélène a mentionné avoir banni le pamplemousse. Alors, pourquoi c'est nocif ? C'est nocif après une greffe ?
Alors, en fait, c'est une question d'interaction médicamenteuse. Il se trouve que le pamplemousse peut interagir avec les médicaments anti-rejet et donc et peuvent en fait inhiber l'action de ces anti-rejets. Donc, ça peut favoriser un rejet.
Alors, aujourd'hui, on sait greffer un foie, mais on ne sait pas en fabriquer un artificiel, comme c'est le cas pour le cœur. Est-ce qu'on a des avancées dans ce domaine ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de recherches à l'heure actuelle sur le foie artificiel, mais c'est vrai que aujourd'hui, la technique n'est pas au point et qu'on a encore besoin de la transplantation hépatique pour beaucoup de patients. Je voudrais juste dire qu'en France, on en fait à peu près 1000 par an, mais qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont en attente de greffe que de gens qui vont recevoir une greffe. Donc il y a une grande discordance et donc on doit favoriser le don d'organes.
Professeur Ezad, on a Kalilou du Bénin qui nous demande, est-ce qu'il est vrai que la constipation et la consommation excessive du thé vert peuvent entraîner des problèmes de foie ?
Non, alors constipation non, et le thé vert non, ça fait partie des aliments et des boissons qui sont bonnes pour le foie puisque c'est plutôt antioxydant.
On a également un dernier auditeur qu'on va prendre en ligne, Karim. Karim nous appelle de Yaoundé au Cameroun, bonjour.
Bonjour Diarra, bonjour professeur.
Bonjour.
Oui, j'aurais 2 ou 3 questions.
Très rapidement.
J'ai 23 ans. Mm-hmm. Oui, j'ai 23 ans. En février dernier, ils m'ont détecté une anomalie du foie. Ils m'ont dit que mon foie était un peu plus volumineux que la normale. On a fait une série d'examens, tous les hépatites et tout, mais on n'a jamais rien trouvé. Après 7 mois de suivi, le médecin arriva à des conclusions que je souffrais de la maladie de Gilbert. Mais elle n'a pas vraiment fait de test pour savoir si effectivement je souffrais de la maladie de Gilbert. Et elle m'a dit que ça ne se soignait pas. Je veux savoir si c'est vrai. Et je veux aussi savoir s'il y a quand même quelque chose à faire.
D'accord. Alors, juste pour répondre très très rapidement, alors faut vraiment pas vous inquiéter, parce qu'on dit maladie de Gilbert, mais en fait c'est pas une maladie, hein, c'est ce qu'on appelle un polymorphisme génétique, c'est-à-dire que vous avez un gène qui est un peu feignant. Si ça peut vous rassurer, je l'ai aussi, donc vous voyez, donc je vais absolument très bien. Donc c'est pas une maladie, il n'y a pas de test particulier, et c'est un diagnostic qu'on fait très très facilement. En fait, c'est une augmentation très minime, au maximum modéré, de votre taux de bilirubine libre. Il n'y a pas de test à faire et c'est un diagnostic très facile à faire. Et donc, vous ne souffrez pas d'une maladie et vous ne serez jamais embêté par ce qu'on appelle encore la maladie de Gilbert.
Voilà. Y a-t-il des tests pour Karim à faire pour cette maladie ?
Aucun.
Non, aucun. Bon, ben Karim, vous pouvez être rassuré. En tout cas, merci beaucoup pour votre appel. Professeur Ezod, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on pourrait dire autour de la protection de ce foie ? Comment bien protéger ce foie, finalement ?
Alors, en gros, ce sont des messages qui sont très simples. Je pense que vraiment, il faut faire un énorme effort sur les hépatites virales. Et en particulier, il faut ne pas hésiter à se faire dépister pour les hépatites virales B et C. Il faut, comme l'a dit mon collègue, la vaccination contre l'hépatite B, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Le deuxième point, c'est sur la consommation d'alcool. Elle doit vraiment être modérée. Je vous rappelle ce seuil de 10 verres par semaine. Et le troisième point, c'est il faut éviter le foie gras, donc il faut prévenir l'obésité, il faut prévenir le diabète, donc ça veut dire une bonne hygiène de vie, ne pas manger trop sucré, trop gras, trop salé, et faire du sport. Voilà.
Merci pour tous ces conseils, professeur Ezod, et merci d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes hépatologue au CHU Henri Mondor à Créteil, en région parisienne.
Au revoir.
Priorité santé sur RFI.
À présent, nous passons à un tout autre sujet. Nous faisons le point sur la pénurie de médicaments pour les malades de Parkinson. Nous en parlons avec Didier Robiliard, président de France Parkinson. Bonjour, monsieur Robiliard.
Bonjour.
Alors, depuis août 2018, les malades de Parkinson font face à la pénurie de nombreux médicaments utilisés dans leur traitement de leurs symptômes. Pourquoi cette pénurie ?
Eh bien, d'abord, c'est très, très, très préjudiciable aux malades. Pourquoi cette pénurie ? Eh bien, simplement parce que le laboratoire qui produit cette molécule, le CNEMET, et nous annonce que pour des raisons de mise aux normes de son banc de fabrication, il est obligé de ralentir la production, de la stopper, ce qui occasionne des ruptures, et ce qui met les patients parkinsoniens dans une détresse pas possible. Et qui les oblige à des solutions alternatives qui sont loin d'être faciles à trouver.
Du coup, que doivent faire les malades pour se procurer les médicaments ? Aller à l'étranger ou sur Internet ?
Non, alors on déconseille fortement d'aller sur Internet chercher des médicaments. Aller à l'étranger, c'est possible pour une marge infime de la population touchée. Non, la solution, elle est compliquée parce qu'il faut retourner voir son neurologue, il faut trouver des molécules de substitution, donc des nouveaux réglages parce que la maladie de Parkinson suppose des réglages très très précis des médicaments et donc il faut faire ça avec attention. Bref, c'est une situation qui plonge les malades dans une perplexité et dans une angoisse terrible.
Et quelle a été la réaction des pouvoirs publics ?
Eh bien, les pouvoirs publics agissent, mais se révèlent impuissants face à ce phénomène de rupture. Et on est en relation régulièrement avec la NSM qui nous tient au courant des plans de rupture, mais qui s'avère être dans la capacité de remédier au problème pour l'instant.
Et que fait votre association, du coup, France Parkinson, face à cette pénurie de médicaments ?
Alors, c'est un grand coup de colère que nous poussons, parce que ce n'est pas la première fois que les médicaments sont en rupture, c'est régulier comme phénomène. ça touche d'autres pathologies d'ailleurs, hein. Nous ne sommes pas les seuls, malheureusement. Et donc, nous avons décidé de lancer un cri d'alerte pour réclamer un plan d'action urgent de la part du gouvernement, intégrant une action également au niveau européen. Et nous avons lancé une pétition qui est disponible sur notre site franceparkinson.fr ainsi que sur le site des différentes associations qui constituent le collectif Parkinson pour dénoncer ce scandale et demander la mise en place d'un plan d'action d'urgence au niveau du gouvernement.
Quel message vous souhaitez laisser, du coup, Monsieur Robillard?
Le message, c'est que au moment où on a une stratégie nationale de santé lancée par le gouvernement qui place le malade au cœur du système de santé, nous voudrions que ces déclarations se traduisent par des actes concrets et que on cesse de plonger les malades dans cette angoisse de la rupture, que l'on trouve des solutions pour que les médicaments soient régulièrement produits et éventuellement leur production soit rapatriée en France ou en Europe pour éviter ces ruptures. Et le message que l'on veut laisser, c'est que les malades ne resteront pas sans agir et que collectivement, ils s'unissent pour dénoncer ce que nous considérons comme étant un vrai scandale sanitaire.
Merci beaucoup, Monsieur Robillard, d'avoir participé à notre émission. Je rappelle que vous êtes donc président de France Parkinson. On va profiter des quelques minutes pour nous reste pour continuer de parler un tout petit peu de ce foie. On a des questions fréquentes qui sont venues. Alors, on a le jeûne détoxifie le foie. Oui, non, peut-être.
Non. Il n'y a pas de règle là-dessus. Mais effectivement, si ça permet de faire perdre un petit peu de foie, un petit peu de poids. Plutôt, ça peut être bon pour le foie. Voilà.
Alors, professeur, on a un auditeur qui nous demande pourquoi ai-je du mal à digérer?
Alors ça n'a rien à voir avec le foie. Hein. Ça, c'est l'estomac, c'est-à-dire ce qu'on appelle la crise de foie. En fait, c'est l'estomac qui est un peu paresseux, qui a un peu de mal, et c'est souvent lorsqu'on a mangé un peu trop gras, voilà, ou quand on a mangé trop en quantité. Mais non, il n'y a pas de... Le foie n'a rien à voir là-dedans.
On a un autre auditeur qui nous demande comment résorber le petit creux de 11 heures sans grignoter.
Alors, c'est vrai que le grignotage, c'est vraiment pas bon. Souvent, en plus, que l'on grignote, c'est très sucré et très salé. Alors, il y a soit on boit deux grands verres d'eau, parce que ça permet de remplir l'estomac et donc on a une impression de satiété. Ou sinon, il y a un fruit qui est très intéressant, quoi, c'est la pomme. Vous pouvez manger une pomme. Ça, c'est très peu calorique, c'est pas très très sucré et c'est très bon.
Il y a d'autres aliments comme ça qu'on peut inciter à consommer?
C'est de façon générale, c'est les fruits et les légumes, mais vraiment la pomme, c'est excellent pour le petit creux de 11 heures.
Merci beaucoup pour tous vos conseils, professeur Ezad. Priorité santé touche à sa fin. Merci à mon équipe, à Cétoussa Maquet, Ophélie Lassende, Victor Hull. Merci à mon invité, le professeur Ezad. Demain, dans Priorité santé, retrouvez Caroline Paré qui répondra à toutes les questions autour des adolescents.
C'était Priorité Santé avec Sounois Assurance qui vous propose l'assurance habitation pour protéger vos biens, vos proches et votre voisinage. Sounois Assurance, notre métier, l'assurance.